Vous écoutez, on lit pour vous.
Incursion au cœur de clinique d'avortement. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir. Au cours de leur vie, les cinéastes québécoises Élise, Équerre Lambert et Julie Boisvert ont toutes deux eu recours à l'avortement. Le fait de réaliser le documentaire « Libre de choisir » est une façon pour elles de remercier les médecins et infirmières bienveillantes qui leur ont prodigué ce soin de santé. Le long-métrage met en lumière le travail de différentes soignantes travaillant dans des cliniques d'avortement au Québec. Il y a eu une ouverture de certaines cliniques dès le départ. Nous avons été agréablement surprises, car c'était la première fois qu'une caméra entrait dans ces lieux-là, souligne Mme Boisvert en entrevue avec Le Devoir aux côtés de Mme Équerre Lambert. À Montréal, on y voit notamment la docteure Maude Côté-Leduc et sa mère, l'infirmière Jacqueline Côté, qui discute doucement avec une patiente pendant l'intervention. On a l'image qu'un avortement, ça se passe dans un endroit lugubre, alors que pas du tout. Ces soins sont pleins de lumière aussi, affirme Élise Équerre-Lambert. Lorsque les deux réalisatrices ont entamé leur projet ensemble, en 2021, elles en sont vite arrivées à la même conclusion. Il demeure difficile de dire à ses proches avoir eu une interruption de grossesse. Le fait de raconter son histoire personnelle d'avortement est encore tabou, estime Julie Boisvert. Pourtant, environ une Canadienne sur trois se fera avorter au cours de sa vie, selon le gouvernement fédéral. Dans le documentaire, des femmes de tous âges et milieux relatent leurs expériences à l'écran. Certaines ont déjà un enfant, d'autres non. Le fait de parler librement de cette intervention est probablement la meilleure façon de protéger ce droit, affirme Élise Équerre-Lambert. Quand on installe l'avortement dans la sphère publique comme étant un soin de santé, et qu'on ne crée pas une bulle dramatique autour de cela, ça fait en sorte de solidifier ce droit, renchérit Mme Boisvert. Demeurer mobilisé, préoccupé. En contraste avec l'atmosphère calme des cliniques, les réalisatrices ont filmé des images de marches agitées, notamment celle contre l'avortement qui s'est tenue à Ottawa en mai 2023. Des manifestants et contre-manifestants s'y affrontent à coups de slogans scandés à tue-tête. La caméra y suit Véronique Pronovost, doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui est présente à l'événement afin d'effectuer des observations pour ses recherches. Il faut demeurer mobilisé, préoccupé, continuer à observer ce qui se passe et pas seulement ce qui se passe dans les institutions juridiques et politiques, et se dire qu'ici, on est correct, dit-elle à l'écran. Vers la toute fin du documentaire, l'infirmière Jacqueline Côté affirme d'ailleurs qu'elle se désole de terminer sa carrière avec le sentiment qu'il faut toujours se battre. Les hommes doivent aussi s'exprimer au sujet de la défense du droit à l'avortement, estime Mme Boisvert. Ça a été très difficile d'en trouver qui voulaient participer au documentaire. Peut-être que certains se disent que ça appartient aux femmes et qu'ils ne veulent pas prendre la parole à propos de ça. Mais au contraire, ils doivent être là pour nous appuyer. Des organismes anti-avortement. Dans leur quête, les deux réalisatrices exposent également le phénomène des centres de crise de grossesse au Québec qui ressemblent à des cliniques de soutien, mais qui sont en fait conçus pour décourager les femmes de se faire avorter. L'une de leurs collaboratrices a d'ailleurs visité l'un de ces centres avec une caméra cachée pour y documenter ce qui s'y fait. Sur place, le personnel des lieux lui propose notamment de manipuler un modèle de fœtus. Les femmes peuvent vivre des expériences très négatives dans ces endroits. Je connais des personnes qui sont malheureusement tombées sur ces organismes. C'est vraiment important de diriger les gens vers les bonnes ressources, soutient Élise Ecker-Lambert. Elle espère que le documentaire permettra de briser la solitude que peuvent vivre les femmes qui pensent mettre fin à leur grossesse. Il faut qu'on ouvre la discussion et qu'on soit à l'aise d'accueillir celles qui veulent nous en parler. Libre de choisir. Long-métrage documentaire scénarisé et réalisé par Julie Boisvert et Élise Ecker-Lambert, Canada, Québec, 2025. Présenté en version de 71 minutes à la Cinémathèque québécoise dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma le 26 février, ainsi que le même jour en version de 52 minutes sur les ondes d'ici RDI à 20h. Cette version sera également diffusée sur ICI Télé le 8 mars à 22h30. Le film prendra l'affiche en mars 2025. C'était Incursion au cœur de clinique d'avortement. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir.
Jusqu'à 1 000 $ pour des patients gardés contre leur gré en psychiatrie. Un texte d'Anthony Ouellet, paru le 18 février 2025, dans La Tribune. Avez-vous été interné préventivement dans un établissement psychiatrique de la région de l'Estrie pendant plus de 3 jours? Vous pourriez être admissible à recevoir une compensation financière allant jusqu'à 1 000 $ dans le cadre d'un recours collectif. La mise sous garde préventive en psychiatrie est légale, sans le consentement du patient, si tant est qu'elle ne dépasse pas les 72 heures. Par la suite, un juge doit émettre une autorisation pour qu'elle continue. Or, ce délai n'est pas respecté dans certains cas. Un recours collectif dans ce dossier, mené par le collectif pour la défense des droits en santé mentale Action Autonomie, a permis d'arriver à une entente de règlement avec les différents CIS et CIUS. Ainsi, toute personne ayant vécu une garde préventive de plus de 72 heures contre son gré, sans autorisation judiciaire et sous réserve d'une prolongation légale de la garde entre le 1er janvier 2015 et le 4 novembre 2024, dans un des établissements visés, peut faire une demande d'indemnisation. La date limite pour le faire est le 11 août 2025. En région, c'est l'organisme Pro-Def Estrie qui a été désigné pour accompagner les gens qui feront une réclamation. Sa directrice générale, Carole Panton, invite les potentielles victimes à se signaler, indiquant que le délai jusqu'au 11 août est relativement court. On offre un soutien à la première étape, l'inscription. Par la suite, l'organisme mandaté pour la validation des réclamations va faire le travail de vérification, indique Madame Panton. Autrement dit, une personne qui souhaite faire une demande d'indemnisation n'a pas besoin d'avoir des dates précises en main, mais plutôt une période de temps où la garde préventive a eu lieu. Les vérifications seront faites par la suite. Pour Carole Panneton, il s'agit d'une victoire dans le dossier du respect des droits en santé mentale. Ce recours-là est important. Si la garde préventive n'est pas respectée dans le temps, peu importe les raisons alléguées, ce n'est pas normal, dit-elle. En 2023-2024, 651 mises sous garde préventive ont eu lieu en Estrie. C'était jusqu'à 1 000 $ pour des patients gardés contre leur gré en psychiatrie, un texte d'Anthony Ouellet paru le 18 février 2025 dans La Tribune.
Le transport, principal enjeu d'accessibilité au Nunavut. Un texte de Karine Lavoie, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie. La Nunavumi Disabilities Makinaswakit Society a dévoilé le 3 décembre 2024 les résultats d'une étude inter-territoire et inter-handicap sur l'accessibilité. Ce projet de recherche qui a mené à interroger 543 répondants, dont 88% étaient des Inuits âgés entre 18 et 88 ans, vise à faire progresser et à éclairer l'élaboration de normes d'accessibilité d'un point de vue Inuit explicitement adaptées au Nunavut. Réalisé en collaboration avec des Nunavumiut handicapés, des experts et des partenaires dans le domaine, le document de 216 pages, « Promouvoir les normes d'accessibilité à travers l'Inuit Kujimajatukwanjit » a été lancé lors de la Journée internationale des personnes handicapées. À travers des discussions individuelles et en groupe de 3 à 25 personnes, les participants des 25 collectivités ont partagé leurs expériences personnelles et leurs points de vue sur la façon de rendre le territoire plus inclusif et accessible. D'une durée de 3 ans, cette étude a été réalisée avec la contribution financière de Normes d'accessibilité Canada, NAC. Des lacunes identifiées. Selon Alison Collum, associée de recherche à la Nunavumi Disabilities Makinaswakit Society et l'une des 6 auteurs du rapport, il existe très peu de recherches sur les expériences des personnes handicapées au Nunavut. Certaines études portent sur un type particulier de handicap, mais nous voulions avoir une idée générale des expériences de tous les types de handicap dans les 3 régions. Pour nous, il était important de comprendre les obstacles auxquels les Nunavumiut sont confrontés dans leur communauté et les interventions potentielles nécessaires pour améliorer l'accessibilité, dit Alison Collum. Les projets de recherche financés par NAC doivent inclure les personnes concernées à chaque étape. Cette approche favorise l'élaboration de solutions pour éliminer les obstacles d'accessibilité basés sur leur expérience. En intégrant les perspectives des personnes en situation de handicap ainsi que celles issues de groupes méritant l'équité, les recherches bénéficient de perspectives diversifiées, affirme Stéphanie Chénier, gestionnaire des communications pour Normes d'accessibilité Canada. L'étude de la NDMS s'articule autour des 7 axes de recherche prioritaires de NAC, soit l'emploi, l'environnement bâti, la communication, l'approvisionnement, les programmes et services, les technologies de l'information et de la communication ainsi que le transport. Avec 81% des personnes interrogées qui ont mis en lumière des problématiques liées au transport dans leur collectivité, cela en fait l'enjeu le plus important selon les Nunavumiut. Dans chaque communauté, les participants nous ont dit que leur communauté bénéficierait grandement d'un véhicule accessible. La plupart des communautés n'ont pas de transport en commun ou de taxi, et il est très difficile pour les personnes confrontées à des obstacles physiques de se déplacer, souligne Alison Collum. La chercheuse mentionne que les programmes et les services accessibles et de qualité ont aussi été un domaine d'intérêt important lors des entrevues avec 80 % des répondants qui ont mentionné cet aspect comme un problème. Les Nunavummiut aimeraient voir plus de programmes dans leur communauté, axés particulièrement sur des activités culturellement pertinentes et le renforcement des compétences comme la chasse, la couture et le perlage, poursuit-elle. Pour appuyer le personnel de recherche à travers le territoire, des champions communautaires ont été embauchés dans chaque communauté. Ces contacts locaux se sont entre autres rendus à la radio pour promouvoir le projet et les visites à venir, ont affiché des annonces dans leur collectivité, fourni des renseignements aux participants intéressés et aidé l'équipe de recherche en leur communiquant des informations pertinentes au sujet de leur collectivité. Des changements souhaités. Le rapport de la NDMS met en évidence des obstacles spécifiques aux Nunavut en ce qui a trait à l'accessibilité telle que l'isolement géographique, les ressources limitées et les contraintes financières, rendant la mise en œuvre des normes d'accessibilité particulièrement difficile comparativement à d'autres régions du Canada. Bien qu'Alison Collin estime que beaucoup de changements sont nécessaires pour améliorer l'accessibilité au Nunavut, elle constate que de nombreuses personnes sont prêtes à aborder le sujet, ce qui donne de l'espoir que des changements positifs peuvent se produire. La NDMS souhaite maintenant que les décideurs soient disposés à lire ce rapport et à apporter des améliorations. De son côté, Stéphanie Chénier souligne que le rapport de recherche révèle que le Nunavut se distingue par ses forces et ses approches axées sur la communauté. Elle estime que le projet dénote les progrès tangibles réalisés ces dernières années en matière d'accessibilité, y compris une meilleure reconnaissance du handicap comme un élément essentiel du bien-être communautaire. Bien que la loi canadienne sur l'accessibilité ne s'applique pas au territoire ni à aucune entité territoriale, NAC collabore avec le Nunavut pour atteindre des objectifs communs en matière d'accessibilité en dirigeant, par exemple, une table ronde pancanadienne sur le sujet, dont le territoire fait partie. C'était « Le transport, principal enjeu d'accessibilité au Nunavut », un texte de Karine Lavoie, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie.
Mieux vivre et comprendre sa ménopause. Un texte de Catherine Enfield, paru le 23 février 2025 dans la presse. Les symptômes de la ménopause sont fréquents et parfois pénibles. Que faire pour aller mieux? Lors d'un webinaire cette semaine, la docteure Jeanne Bouteau, gynécologue obstétricienne au CHUM, a démystifié cette transition et les options thérapeutiques. Ménopause et périménopause 101. La ménopause se définit par l'absence de règles pendant 12 mois après l'âge de 45 ans. La périménopause ou préménopause, pour sa part, est la période en montagne russe qui précède la ménopause de 3 à 7 ans en moyenne. Elle peut s'accompagner de migraines, de douleurs mammaires, de saignements, d'agitation, d'anxiété et de certains troubles du sommeil. En périménopause, le corps essaie de lutter contre la baisse d'activité des ovaires et produit encore plus d'hormones, a expliqué la docteure Jeanne Bouteau lors d'une conférence en ligne de la série « Les belles heures » de l'Université de Montréal. Symptômes. Après cette phase de fluctuation, les niveaux d'hormones deviennent bas. Les ovules sont épuisés. C'est la ménopause qui survient en moyenne à l'âge de 52 ans au Canada. Les symptômes classiques, sueur nocturne, bouffée de chaleur, irritabilité, saute d'humeur, baisse d'énergie, sécheresse vaginale, insomnie. Il n'y a pas de syndrome ménopausique universel, a précisé la docteure Bouteau. Les symptômes, qui varient beaucoup d'une femme à l'autre, commencent en moyenne de 1 à 2 ans avant l'arrêt des règles et atteignent leur apogée dans les 3 années qui suivent. Chez 15 à 20 % des femmes, ils persistent à très long terme. Bouffées de chaleur. Le mécanisme derrière les bouffées de chaleur est mieux compris. L'hypothalamus, qui contient le centre de thermorégulation, est en fait dérangé par la baisse des estrogènes, a vulgarisé la docteure Jeanne Bouteau. Plus les symptômes vasomoteurs apparaissent tôt, avant l'arrivée de la ménopause, plus ils vont durer longtemps. Les bouffées de chaleur affectent l'humeur et le sommeil, mais pas seulement. Les patientes, qui ont les bouffées de chaleur les plus sévères et prolongées, risquent aussi davantage de développer une maladie cardiovasculaire plus tôt, a-t-elle indiqué. Santé mentale et cognitive. Des femmes sont sensibles aux variations des hormones sexuelles et la périménopause et la ménopause représentent une fenêtre de vulnérabilité en matière de santé mentale. Parmi les facteurs protecteurs, on trouve une perception positive de la ménopause, un bon soutien social, l'hormonothérapie, la psychothérapie, l'exercice, le sommeil de qualité et la méditation. Autres symptômes associés à la ménopause, le brouillard mental. Ce n'est pas un signe de démence précoce, a précisé la docteure Bouteau, et ça s'améliore avec le temps. Habitude de vie. La ménopause est une belle occasion de réfléchir à son mode de vie, alcool, tabagisme, aliments transformés, sédentarité, stress, sommeil. Parmi les habitudes de vie importantes pour vieillir en santé, la docteure Jeanne Bouteau a, entre autres, cité l'exercice physique, en particulier la musculation, et un apport suffisant en protéines pour maintenir la masse osseuse et musculaire. Demandez à ChatGPT de vous sortir un menu incluant 70 grammes de protéines par jour, a-t-elle conseillé. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ne plus souffrir en silence. Si, en dépit des efforts pour améliorer vos habitudes de vie, les symptômes affectent votre qualité de vie, il faut aller chercher de l'aide, a insisté la docteure Jeanne Bouteau, selon qui les femmes ne doivent plus souffrir en silence. La gynécologue obstétricienne a fait le tour des nombreuses options thérapeutiques qui existent pour les bouffées de chaleur, le syndrome génito-urinaire, les troubles de l'humeur. Qui consulter? On peut commencer par son médecin de famille ou une infirmière praticienne, puis regarder du côté des professionnels formés, la Société de la ménopause tient un registre, et des cliniques spécialisées et centres universitaires. Systémiques et locaux. Il existe deux types de traitements hormonaux, les traitements systémiques, qui pénètrent dans la circulation sanguine, pilules, timbres, et circulent dans l'ensemble du corps, et les traitements locaux, qui ciblent principalement la zone génito-urinaire, comme des crèmes vaginales. Il faut se rappeler que les traitements pharmacologiques à base d'hormonothérapie systémique sont soutenus par toutes les associations et tous les regroupements médicaux à travers le monde, a précisé la docteure Jeanne Bouteau. C'est reconnu comme le traitement qui devrait être privilégié pour le soulagement des symptômes de la ménopause en l'absence de contre-indications. Étude WHI. Pourquoi est-ce qu'on n'en prescrit pas plus? A poursuivi la docteure Bouteau. Essentiellement à cause de l'étude américaine Women's Health Initiative, WHI, dont la publication en 2002 avait bouleversé la pratique. Les analyses avaient montré que les femmes qui prenaient de l'estrogène combiné à une forme de progestatif synthétique couraient un risque légèrement augmenté, de 5 à 10 cas de plus pour 10 000 femmes, de caillots de cancer du sein, d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Ce dont on néglige souvent de parler, selon Jeanne Bouteau, c'est que lorsqu'on prenait de l'estrogène seul, c'était associé à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer du sein, de cancer colorectal, tout cancer confondu, de fractures d'ostéoporose, de décès toutes causes confondues et de diabète. Bio-identique. Au Québec, le terme bio-identique est généralement utilisé pour désigner des hormones identiques à celles du corps. Mais lorsqu'on sort du Québec, bio-identique peut vouloir dire autre chose. En général, ça fait plutôt référence à des préparations magistrales non régulées, non approuvées, a averti la docteure Bouteau, qui appelle à la vigilance envers les produits non réglementés. En matière d'hormonothérapie bio-identique, Santé Canada approuve des produits de progestérone micronisés, comprimés, et d'estradiol 17-bêta, la plupart sous forme de gel et de timbre. Ceux-ci sont donc de qualité pharmaceutique. Prudence. En plus des traitements non approuvés par Santé Canada et des préparations magistrales, Jeanne Bouteau a lancé un autre avertissement, la thérapie par granule ou pellette. Des hormones implantées par voie sous-cutanée. Elles peuvent être associées à des effets secondaires problématiques, a-t-elle averti. Prudence aussi envers les tests coûteux, laboratoires, analyses salivaires, monitorage, offerts dans certaines cliniques. Ça ne correspond pas tout à fait aux normes de pratique et à ce qui est nécessaire cliniquement pour bien vous prendre en charge, a avisé la docteure Bouteau. En savoir plus, source Fondation canadienne de la ménopause, 3,5 milliards, les symptômes de la ménopause qui ne sont pas pris en charge coûte 3,5 milliards par année à l'économie canadienne. La perte de productivité s'élèverait à 237 millions et le nombre de jours perdus à 540 000. Certaines femmes décident carrément de quitter le marché du travail. C'était « Mieux vivre et comprendre sa ménopause », un texte de Catherine Anfield, paru le 23 février 2025 dans la presse.